Alors, on termine ce matin notre série Vive l'Église autrement. La semaine prochaine, on va entreprendre une nouvelle série ensemble. Et on termine aussi la lecture du livre de John Piper, Le coronavirus et Christ. Et je vous encourage, si vous ne l'avez toujours pas lu, de prendre le temps de le lire. On a des belles leçons à apprendre dans ce livre-là. Et on va chercher à plonger dans une de ces leçons-là ce matin ensemble. Question d'introduire un peu le passage qu'Estan va nous lire. On s'en va dans Matthieu 24. Et on va aller voir différents éléments de ce passage-là. C'est un moment où Jésus va annoncer à ses disciples. Alors, il termine une visite au temple avec les disciples. Les disciples sont un peu pâmés devant la beauté du temple, tout ça. Puis Jésus leur fait une prophétie. Il leur annonce que le temple va être détruit. On y revient tout à l'heure. Mais ensuite de ça, ils vont s'en aller, ils vont se retirer, et puis ils vont aller au Mont des Oliviers. Et là, les disciples vont revenir sur ça. OK, tu nous dis que le temple va être détruit, qu'est-ce qui va se passer, tu vas revenir, quand est-ce que tu vas revenir? Et donc, tout ce chapitre-là, le chapitre 25, une bonne partie aussi, sert à Jésus à préparer ses disciples pour les temps de la fin. Alors, si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, peut-être que vous savez que les temps de la fin, c'est à partir du moment où Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est monté auprès du Père jusqu'à son retour. Ça fait 2000 ans qu'on est dans les temps de la fin, d'accord? Et donc, il y a des informations dans ça, mais il y a surtout une exhortation à préparer notre cœur. Garder nos cœurs prêts pour le retour de Christ et garder nos cœurs en mission. Je pense qu'à travers cette grande pandémie-là, Dieu déstabilise les hommes, Dieu déstabilise aussi son Église, afin de garder nos cœurs vraiment focusés au bon endroit. Et c'est ma prière qu'à travers cette série qu'on a fait vivre l'Église autrement, et à travers les prochaines semaines, les prochains mois, comme Église, comme chrétien, on va se servir de cette épreuve-là pour vraiment attacher nos cœurs à Christ, puis garder nos cœurs en mission avec lui. On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, tu es souverain. On l'a répété, je ne sais pas combien de fois à travers cette série. On a pris le temps de se rappeler que tu es notre roc. Que toi, Seigneur, tu n'es pas ébranlé par les épreuves que traversent les hommes. Seigneur, on s'est rappelé à travers cette série que tu es Seigneur, que tu gouvernes toutes choses. Mais on s'est rappelé aussi à travers cette série que tu parles aux hommes. Tu parles à l'humanité, Seigneur. Il y a des gens qui se tournent vers toi à travers cette pandémie mondiale, qui s'interrogent, se posent des questions sur le sens de la vie, sur le sens de leur propre vie, sur l'existence de Dieu. Et je te bénis pour ça, Seigneur. Je suis malheureux des souffrances qui viennent, mais heureux de ce que tu nous brasses, de ce que tu nous parles. L'être humain par nature, tu nous connais, Seigneur, on cherche à être confortable. On cherche à s'installer confortablement. Puis par moments, on a besoin, Seigneur, que tu nous sortes de notre zone de confort. Alors, viens nous parler puissamment ce matin, Seigneur. Viens nous aider à entendre ce que tu veux dire à l'Église de l'Espoir, à ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous personnellement à travers ce très beau passage de Matthieu 24. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen.
Alors, la lecture est dans Matthieu 24, les versets 1 à 51 dans la nouvelle édition de Genève. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils s'assembleront avec les élus, ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi? Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y a des pleurs et des grincements de dents.
Écoutez, le moins qu'on peut se dire, c'est que cette crise mondiale-là est déstabilisante. On est complètement déstabilisé. Puis ce matin, j'étais encore en train de penser au message, prenais un temps de prière, puis j'étais assis dans mon salon, je regardais à l'extérieur, puis je me disais, pourtant, la rue est belle, les arbres sont là, les maisons sont belles, il n'y a pas de guerre dans la rue, puis il n'y a rien de normal. Tout est anormal, tout est étrange. Tout le monde est déstabilisé. Les étudiants vont à l'école, vont pas à l'école, sont motivés, sont démotivés, sont en train de décrocher, ils essaient de pas trop décrocher, pas manquer leur année. Est-ce qu'ils doivent la compléter? Là, il y a des enfants qui restent à la maison, plus jeunes, là, les parents doivent s'adapter. Les deux travaillent, les enfants sont à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est déstabilisé. Les personnes âgées qui vivent seules chez elles, quelle bouffée d'air frais de dire « on peut sortir, aller voir quelques personnes, soyez responsables ». Mais il y a vraiment des gens qui souffrent énormément de solitude. Les gens qui sont entrepreneurs, les commerçants qui se demandent « mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais perdre mon entreprise? Est-ce qu'on va réussir à la sauver? Combien de temps ça va nous prendre pour se relever de ça? » C'est tout le monde. Pensez juste aux vacances. Qu'est-ce qu'on fait pour les vacances d'été? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir prendre des vacances? Sûrement, mais on va aller où? Dans notre cours? Mais ça fait déjà 2 mois qu'on est dans notre cours, fait qu'on s'en va-tu ailleurs? Mais je ne sais pas si on va pouvoir prendre l'avion. Est-ce qu'on va pouvoir voyager? Non, peut-être qu'on va rester ici. On va visiter le Québec, ouais, mais on peut-tu réserver un chalet? On va-tu avoir le droit d'aller dans un chalet? Faut-tu le brûler avant de rentrer dedans pour en reconstruire un autre? Je déconne, mais vous comprenez, c'est tout le monde est déstabilisé. Les rendez-vous médicaux, ouais, je devais aller avoir un rendez-vous, mais on ne prend pas de rendez-vous. Vous rappellerez la semaine prochaine. Tout le monde, les cultivateurs. Une histoire triste ce matin, je lisais. Écoutez, c'est un crime contre l'humanité. Il y a un cultivateur d'asperges au Québec qui va perdre peut-être le tiers de ses asperges. C'est un crime contre l'humanité, des asperges. Là, je me suis dit, est-ce que je peux libérer du temps pour l'aider à juste aller récolter ses asperges? C'est là que ça se passe, puis il manque de travailleurs. Mais pour lui, c'est vraiment dramatique. Non seulement il doit se battre contre la nature, les saisons à chaque année, mais là, en plus de ça, il manque d'employés tout simplement pour faire sa récolte au bon moment. Tout le monde est déstabilisé. Puis c'est étrange, parce qu'en même temps, tu regardes dehors, tout semble bien aller. Puis là, ça, c'est ici. Parce qu'évidemment, une des conséquences, c'est la crise économique qu'on déclenche à travers tout ça pour se mettre à l'abri, mais en même temps, il va y avoir des centaines de pays qui vont souffrir non seulement d'une crise économique locale, mais qui ne recevront peut-être pas l'aide internationale qu'ils auraient dû recevoir. C'est une des premières questions qu'on s'est posées à l'Église. Ici, on s'est dit, OK, est-ce qu'on est capable de sécuriser les salaires? Le comité de finances a été génial, l'Église est généreuse. Mais évidemment, l'autre question, c'est oui, mais nos missionnaires, parce qu'on a des gens qui sont missionnaires dans des pays où les situations sont encore plus précaires. On ne voudrait pas qu'eux autres s'inquiètent. Et par la grâce de Dieu, on sécurise ça aussi. On va parler de ça à la réunion annuelle. Par la grâce de Dieu, tout va bien aller de ce côté-là, mais eux sont peut-être en train de servir dans des pays qui, cette année, vont avoir moins d'aide à l'humanitaire. Peut-être tout simplement moins des gens, des aidants qui vont les servir là-bas, mais moins de sous aussi parce qu'on rentre dans une crise économique. Donc, c'est énorme, les bouleversements. C'est extrêmement déstabilisant. J'aime bien le terme que John Piper utilise. Il va parler de déracinement. La terre est comme déracinée, on est sorti de notre zone de confort. Voici comment je résumerais l'exposé biblique de ce matin. Par le coronavirus, comme si souvent dans l'histoire de son Église, Jésus nous déracine pour nous engager dans sa mission. Alors, c'est certain que la terre entière est affectée, ce n'est pas seulement l'Église, c'est évident. Et comme on l'a vu à travers la série, je pense, si tu n'es pas chrétien, qu'à quelque part, si Dieu existe, il est en train de te dire, pense au sens de la vie. Pense à ces questions-là. C'est peut-être que tu disais, ouais, peut-être qu'un jour je lirai la Bible, je lirai le Nouveau Testament, le christianisme. Mes arrière-grands-parents semblaient y croire. Peut-être qu'il y a des gens, peut-être que c'est important. Peut-être que c'est le bon moment pour le lire. Puis peut-être que c'est ça que Dieu est en train de te dire. Maintenant, à son Église, aux chrétiens, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec nous? Et John Piper dit, bien, il nous déracine, il nous déstabilise. Et à plusieurs reprises, à travers l'histoire de l'Église, Dieu a fait ça. Jésus a fait ça à son Église. Des situations de persécution, on va en voir certaines, des situations difficiles où les gens doivent tout simplement se déplacer, des crises économiques. Mais ces choses-là ne sont pas nécessairement entièrement négatives. Elles peuvent produire du bon en nous. Et Dieu, dans sa souveraineté, nous fait sortir de notre zone de confort, peut-être justement pour nous amener ailleurs et nous faire grandir ensemble. C'est une des choses qu'on va aborder à travers la prochaine série. Où est-ce que Dieu veut nous conduire à travers tout ça? Où veut-il nous conduire même comme Église? Dans le passage qu'on regarde ce matin, dans Matthieu 24, Jésus est avec ses disciples, il est en train de sortir du temple. Si vous n'êtes pas familier, le temple à Jérusalem, c'est vraiment l'élément central de la ville. C'est comme le fondement de cette ville-là. C'est l'élément unificateur de la ville. C'est le signe concret que le peuple d'Israël a la faveur de Dieu. C'est le signe concret de la présence de Dieu. On se rassemble autour du temple, autour de notre Dieu. C'est lui qui nous apprend à vivre ensemble. C'est lui qui nous donne des lois pour vivre ensemble. C'est absolument central. Jésus est là avec ses disciples, et puis ils sont en train de quitter, puis les disciples trouvent que c'est très beau. Puis là, les disciples disent à Jésus, regarde l'architecture, comment c'est génial, tu sais, le temple, tout ça, puis ils sont en train de se pâmer devant ce temple-là. Puis regardez ce que Jésus va dire, au verset 1 et 2. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Puis il leur dit, « Voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Les disciples lui disent, « Regarde comme c'est beau, Seigneur. Le temple, l'architecture, la présence de Dieu, on est des Juifs. C'est le signe que Dieu est présent. » Puis Jésus qui a fait plein de miracles. Jésus dont les paroles s'accomplissent. Regarde ça, puis il dit, « Je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout va être détruit. » Tout va être renversé. Et ça s'est produit moins de 40 ans plus tard. Moins de 40 ans plus tard, l'empereur Titus va vraiment faire un massacre à Jérusalem et va détruire complètement le temple. Donc, c'est une prophétie qui s'est accomplie du vivant de certains des apôtres qui ont vu ça. Et lorsque Jésus dit « pierre sur pierre, il n'en restera pas une qui va rester debout », Ils ont mis, c'est ce que les historiens de l'époque nous disent, ils ont mis le feu au temple et il y avait des feuilles d'or qui couvraient le toit du temple. Et l'or a fondu et est venu à l'intérieur de tout, dans tous les interstices, toutes les fissures entre les pierres. Et donc, on a littéralement renversé chacune des pierres pour aller les frapper puis récolter l'or qui avait glissé un peu partout dans ces fissures-là. Donc, littéralement, le temple a été complètement démoli. C'est le symbole pour Israël. C'est extrêmement fort. J'étais là et je me disais, quelle comparaison je pourrais donner à des gens du Québec qui connaissent Montréal? Est-ce qu'on a un édifice qui pourrait ressembler à ça? Puis honnêtement, je ne pense pas qu'on a rien qui peut même s'approcher. Peut-être si on avait vécu il y a 100 ans, peut-être qu'on aurait dit l'oratoire Saint-Joseph. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Bien honnêtement, l'effet de ce massacre-là à Jérusalem puis la destruction du temple, si on voulait produire un sentiment semblable à ce qu'Israël a vécu en 70 après Jésus-Christ, il faudrait qu'on soit à Montréal. Je suis en train de vous faire visiter Montréal. Puis toi, tu es un prophète de Dieu. Puis tu me dis, Yannick, il va y avoir un missile nucléaire qui va tomber sur cette ville-là. Je dis, cette ville-là va directement recevoir une bombe atomique qui va venir la détruire complètement. Et ça se produit 40 ans plus tard. Dieu est souverain. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça à Jérusalem? Plusieurs des apôtres l'ont peut-être vu de leur vivant. Plusieurs des chrétiens de l'époque l'ont vu de leur vivant. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis que le temple soit complètement détruit alors que c'était le symbole de la présence de Dieu. Il y a définitivement un élément de, certainement un élément de jugement de la part de Dieu sur Israël qui a rejeté son Messie, son Sauveur. Les Juifs attendaient un Sauveur, un Messie qui avait été annoncé par les prophètes, qui avait été annoncé dès Moïse. Ce Sauveur-là allait venir. Jésus vient, il est le Fils de Dieu et les Juifs le rejettent, le font crucifier par les Romains. Et donc, il y a certainement un élément qui est un jugement de Dieu sur cette partie d'Israël qui n'a jamais reconnu son Sauveur. Nombre de Juifs ont cru en Jésus, sont devenus chrétiens, non seulement juifs, mais chrétiens, des disciples du Christ. Mais la grande majorité, non. Et donc, il y a certainement un élément de jugement de la part de Dieu sur le peuple d'Israël qui est là. Mais il y a autre chose aussi, parce que lorsqu'on comprend l'Évangile, on comprend que le temple était un édifice qui symbolisait la présence réelle de Dieu en esprit au milieu du peuple d'Israël. Et Jésus va dire lui-même qu'il est ce temple-là. Jésus va dire « Détruisez le temple, je vais le rebâtir en 3 jours », parlant de sa mort et de sa résurrection. Jésus meurt sur la croix, il paie pour nos péchés, il ressuscite d'entre les morts, Dieu agrée son sacrifice. Et à celui qui croit en Jésus, je n'ai plus besoin de temple. Parce que lorsque je veux m'approcher de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ que je m'approche de Dieu. Et donc, les chrétiens, nous n'avons pas besoin de ce temple-là. Christ est avec moi par son esprit en moi. Et à tout moment, que je sois n'importe où sur la terre, coronavirus, pas de coronavirus, que je sois dans une ville, dans la campagne, dans la nature, au milieu d'une foule, seul, capable de prier en silence, peu importe, Dieu est présent. Et si j'ai cru en son Fils, Dieu est avec moi. J'entre en communion avec lui d'une manière plus intime et plus réelle, même que les Juifs pouvaient le faire en allant au temple, où ils allaient offrir des sacrifices d'animaux symboliquement pour le pardon de leurs péchés et donc se réconcilier avec Dieu. Maintenant, moi, j'ai Dieu le Fils qui habite en moi par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit de Dieu habite en moi, il habite en toi. Si tu as cru en Jésus-Christ, le temple n'est plus nécessaire. Et donc, certainement que Dieu est en train de dire, le Seigneur Jésus est en train de dire à son Église, « Attachez-vous pas au temple à Jérusalem. Vous êtes des chrétiens. La terre est à vous et je vous envoie en mission. » Et donc, lorsque j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, pour un chrétien de l'époque, un disciple de Jésus, puis là, Jésus meurt, ressuscite d'entre les morts, tu crois en lui, tu commences à annoncer l'Évangile, puis en 70, le temple est détruit. Si j'étais un Juif qui avait cru en Jésus, il y aurait quand même quelque chose qui se passerait. Je me dirais, mais c'est notre histoire là, qui est détruite, c'est notre histoire qui est effacée. Et le Seigneur déracine littéralement, déracine son peuple, défait ses attaches, brise ses attaches, à quelque part le déstabilise puis le libère de ces attaches-là avec un but. Il a un objectif derrière ça. Dieu est en train de déraciner son peuple, littéralement. J'ai parlé à travers les dernières semaines, puis j'espère développer ça dans les prochaines années, toute la doctrine de l'incarnation qui, je pense, est tellement centrale dans les Écritures. Entre autres parce que nous ne sommes pas seulement des esprits. On a été créés avec un corps, puis c'est pas ce corps-là fait vraiment entièrement partie de notre humanité. Tant et si bien que dans l'éternité, nous allons avoir un nouveau corps. On ne va pas simplement être un esprit. Maintenant, vient avec ça le fait que ce corps-là désire être confortable. Puis il y a quelque chose de très, très sain dans ça. On aime s'installer. J'ai ma routine, j'ai plein de routines dans ma vie, tu as plein de routines dans ta vie. Quand tu te lèves le matin, les 5 premières affaires que tu fais, c'est probablement les 5 mêmes à chaque matin. Puis quand tu t'en vas te coucher le soir, ton oreiller, s'il est juste 3 pouces à gauche, tu vas le replacer là, puis là, tu vas t'installer, puis là, tu vas dire, tu cherches juste la même affaire qu'hier. Parce qu'on veut être confortable, parce qu'on est incarné, on a un corps, on veut s'installer, on veut prendre racine à quelque part. même les plus aventuriers d'entre nous, ceux qui disent « Ah non, moi, j'ai pas de racines, moi, je voyage. » Ouais, ouais, tu as ton petit kit de voyage, puis quand tu te couches le soir, je suis sûr que ton sleeping bag, il est placé de la même manière tous les soirs. Tu as ta brosse à dents, là, tu changes d'évier à chaque soir, elle va du même côté, ta brosse à dents. Tu n'attires pas n'importe où. On est des êtres qui sommes ancrés, enracinés dans cette vie terrestre-là. Et il y a quelque chose de très sain dans ça. Il y a plein d'habitudes qu'on prend qui sont super saines. On construit des choses, une habitude sur l'autre, puis on met de l'ordre là-dedans, puis on dit « Ah, ça, c'est une mauvaise habitude, je vais la remplacer par une bonne habitude. » Vous voyez, c'est très incarné, c'est très enraciné, c'est très installé. Puis là, on gagne même en efficience. Puis on dit « OK, là, j'ai pris une bonne routine. » Tu sais, pendant le confinement, il y en a qui se sont mis à faire du sport comme peut-être jamais. Je pense que les Québécois, puis en fait les Occidentaux, peut-être les gens sur la Terre, marchent comme ça fait, comme on n'a jamais marché. Puis là, on se dit, OK, mais là, quand on va sortir du confinement, est-ce que je vais perdre ces habitudes-là? C'est des bonnes habitudes. Tu sais, j'ai ma petite routine, je vais marcher une heure à tous les jours, prendre de l'air, ça fait du bien, tout ça. C'est bon, il y a quelque chose de très bon dans ça. En même temps, lorsqu'on prend racine, souvent, il y a une dimension de confort qui est là. On s'installe. On devient confortable. Puis il peut y avoir quelque chose de très malsain dans ça aussi. C'est intéressant, dans le passage qu'Esther nous a lu tantôt dans Matthieu 24, au verset 38-39, on lit ceci. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. » Puis il y a quelque chose dans ce passage-là qui nous dit, bien, les gens étaient rendus confortables. Ils mangeaient, ils buvaient, ils vivaient, ils se mariaient, ils étaient installés, et il y avait même une espèce de détachement par rapport à Dieu. La vie quotidienne, le train-train quotidien était tellement installé que Dieu ne faisait plus partie de ça. Il était confortable, il était installé sur la terre pour l'éternité, peut-être, au moins pour une belle longue vie. Et puis, Dieu juge les hommes. Et donc, il peut y avoir quelque chose de malsain aussi dans cette installation-là qu'on fait dans le confort. Laissez-moi l'illustrer avec ceci. Le confort, c'est quelque chose d'agréable, mais souvent, pour avancer, pour progresser, il faut sortir de notre zone de confort. Et si tu décides, par exemple, qu'avec ton corps, tout ce qui compte, c'est le confort, tu rentres chez vous, tu t'assois dans ton divan, puis tu passes les 20 prochaines années confortable dans ton divan. Puis là, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ton corps commence à être inconfortable en vieillissant. Puis là, tu vas dire, je pense qu'il va falloir que j'aille faire du sport, puis je pense qu'il va falloir que j'accepte l'inconfort pour pouvoir être plus confortable, pour être plus en santé. Et c'est vrai dans plein de domaines. C'est vrai pour être en forme, c'est vrai si tu veux poursuivre une carrière, si tu veux faire des études, si tu veux maîtriser une compétence quelconque, il va y avoir de l'inconfort qui va venir avec ça. Si tu veux des relations de qualité, il va falloir que tu acceptes l'inconfort de passer par-dessus des offenses puis restaurer des relations. Ça fait partie de la vie normale. Il faut accepter cet inconfort-là. Puis à quelque part, le Seigneur, dans l'histoire de l'Église, sort l'Église souvent de sa zone de confort pour le ramener dans la mission. Pour la ramener dans la mission, il va le faire à plusieurs reprises. On a un bel exemple de ça dans le livre des Actes, où l'Église était à Jérusalem, puis le Seigneur Jésus leur avait dit, « Maintenant, vous allez aller à la fin de Matthieu, dans Matthieu 28, je vais le citer tout à l'heure, Jésus va dire à l'Église, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et il n'a pas dit « Restez à Jérusalem, toutes les nations vont venir à Jérusalem, vous allez faire de toutes les nations des disciples. » Non, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous allez voyager, vous allez partir, vous avez un message à porter jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations de la terre. Et ça ne se passait pas tout à fait comme ça, ça restait installé à Jérusalem. Dans Acte 8, versets 3 et 4, on lit ceci. « Saul, qui sera éventuellement appelé Paul, de son côté, ravageait l'Église. Avant d'être chrétien, il persécutait l'Église de Christ. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Maintenant, qu'est-ce que ça produit, ça? C'était une persécution. Bien, il y a des gens qui se sont sauvés avant de se faire arrêter, des chrétiens. « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Alors, étrangement, à travers une persécution, il n'y a pas plus déracinant pour une communauté chrétienne que si elle devait être persécutée, plus de liberté de se rassembler, on ne peut pas rester ici, il faut fuir la région parce que, je ne sais pas, on nous courrait après, tellement loin de ce qu'on vit actuellement ici au Québec, n'est-ce pas? Mais en même temps, étrangement, Dieu s'est servi de ça pour faire avancer sa mission. Dieu a sorti l'Église de son confort, puis ce que ça a donné, c'est que les gens ont continué à partager la foi. Avant, ils partageaient leurs voisins, puis peut-être que les voisins disaient, « OK, regarde, j'ai déjà entendu, c'est beau. On s'en reparlera l'année prochaine. Tu peux m'en reparler à Pâques, une fois par année, OK? » Ou à Noël, peut-être, tu sais, qui ne fêtait pas Noël à ce moment-là. Puis la persécution vient. Ils rencontrent des nouvelles personnes, partagent leur foi, des gens se convertissent. Dieu s'est servi d'un déracinement extrêmement violent de l'Église à Jérusalem pour faire avancer sa mission. Et le Seigneur a fait ça régulièrement à travers l'histoire, à travers des persécutions souvent, des fois à travers des crises économiques, mais il y a des chrétiens qui vont se déplacer, qui vont être déracinés, qui vont sortir de leur zone de confort, ils vont être à l'intérieur, mettons, d'une église qui devient de plus en plus nominale, de moins en moins vraiment chrétienne. Puis là, ils sont attristés de ça, commencent à faire des réformes dans l'Église. On redécouvre l'Évangile. Il y a même des tensions à l'intérieur. L'Église protestante est née comme ça. On redécouvre l'Évangile. Puis là, on dit, non, mais il faut revenir à la Bible. Non, on garde les traditions. Il y a un schisme, il y a une cassure à l'intérieur de l'Église. Boum, l'Évangile réapparaît. Dieu fait ça régulièrement. Le Seigneur Jésus fait ça régulièrement à travers l'histoire de son Église. Et à quelque part, je crois que c'est ce qu'il fait avec le COVID-19. Il déstabilise son Église partout sur la terre. Il nous sort de notre zone de confort. Et Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Puis ce n'est pas confortable. Alors, je ne sais pas ici qui aime faire du camping. Il y en a qui aiment le camping, il y en a qui détestent le camping. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment le camping 365 jours par année. Je pense que c'est comme on a le confort de nos maisons. Les moustiques sont sortis cette semaine. Hein? Lundi, il n'y avait pas de moustiques. Mardi, 2. Mercredi, 28 quand je vais marcher. Ils sont tous sortis. Ils se sont donné le mot. Ça a l'air qu'on a annoncé le déconfinement un peu, fait qu'eux autres aussi, ils sortent. Qui aime le camping 365 jours par année? Il n'y a pas une tonne de personnes qui aiment ça. On cherche un certain confort. Maintenant, le Seigneur ne veut pas qu'on soit trop confortable parce que nous ne sommes pas des citoyens de la terre seulement. On est des citoyens d'un autre royaume. Et donc, à travers l'histoire de l'Église, régulièrement, les enfants de Dieu, l'Église ne sera pas confortable nulle part sur la terre. Il va nous déraciner un peu partout sur la terre afin de nous garder fidèles à lui, afin qu'on marche avec lui et qu'on demeure fidèles. Maintenant, il y a un objectif derrière ça. Il veut qu'on puisse entrer dans sa mission. Et ça va nous demander à nous, premièrement, de demeurer fidèles et éveillés, de ne pas s'endormir. Et ma prière et ta prière, j'espère, c'est qu'à travers ce qu'on vit ici, nos cœurs soient ranimés. Dans le passage de Matthieu 24, c'est intéressant, il y a cette idée qu'il va y avoir des troubles. Les chrétiens vont être persécutés un peu partout sur la terre. D'une part, c'est dit que l'Évangile va être annoncé à toutes les nations de la terre. Puis d'autre part, il nous dit, parmi toutes les nations, vous serez détestés. Nulle part sur la terre, vous allez vraiment être confortable. Parce que vous êtes des citoyens des cieux, vous êtes dans l'attente d'un autre royaume. Et notre mandat à nous, c'est de demeurer fidèles dans l'attente du roi. Nous sommes dans l'attente de notre roi. Au verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? » Quel sera le signe de ton retour, de ton avènement, de la fin du monde? Puis Jésus, à travers Matthieu 24, donne plein de signes. Plusieurs de ces signes-là se sont produits avant 70. Ça a culminé avec la destruction du temple. Plusieurs se sont répétés à travers l'histoire pendant 2000 ans. Plusieurs vont continuer à se répéter. Et donc, la majorité des théologiens qui interprètent ces passages-là disent il y a des réalisations historique, on peut dire ça s'est passé là, mais c'est probablement aussi un exemple de ce qui va se répéter régulièrement à travers l'histoire. Et donc, il y a peut-être un aspect spécifique, comme la destruction du temple en 70, mais un aspect général aussi, qui va être répété à travers toute l'histoire. Et en fait, au verset 8, Jésus dit, « Tout ça ne va être que le commencement des douleurs. » Destruction du temple, persécution des chrétiens, ça va juste être le commencement des douleurs. Ça fait 2000 ans, on l'a compris. Ce n'est que le commencement. Le Seigneur va revenir bientôt, mais bientôt, c'est lui seul qui le sait. Et c'est ce qu'il va dire. Il va dire, personne ne le sait, juste le Père le sait. Donc, qu'est-ce qui ressort de ce passage-là? Ce n'est pas identifier les signes, vous allez pouvoir déterminer une date. Puis, ce n'est pas ça qui ressort du passage du tout. C'est rester prêt. Demeurez éveillés, ne vous endormez pas. Il va dire, l'amour du plus grand nombre va s'éteindre. Et donc, peut-être que c'est ça que tu dois examiner dans ton cœur à travers cette pandémie-là. Je jase avec des gens, hein, puis il y en a qui sont plus, écoute, je suis en télétravail, je suis à la maison, finalement, je pense que ça peut continuer cette affaire-là. Je reste chez moi, je suis confortable. Tant mieux si c'est ça. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça te ramène à te replier chez toi puis à t'installer? Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça te donne un feu pour Christ ou tu demeures endormi? Jésus nous dit, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Lorsqu'on va dans l'Apocalypse, puis Jésus parle à ses églises, on le voit très bien. Et donc, est-ce que tu es de ceux qui ont perdu leur premier amour ou au contraire, tout ça éveille ton amour, puis tu dis, écoute, on n'est pas citoyen de la terre, c'est évident, c'est déstabilisant, je suis premièrement citoyen du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça produit en toi? Est-ce que ça excite ton zèle pour Dieu ou est-ce que tu t'endors un peu plus? Est-ce que ça te donne le goût d'aller annoncer l'Évangile ou est-ce que tu dis, non, je vais rester confortable chez moi? Et donc, ma prière, c'est que tu ne sois pas du plus grand nombre, dont l'amour se refroidit, mais que tu sois de ce petit nombre-là qui est de plus en plus excité pour Christ. Et l'exhortation de tout ce passage-là dans Matthieu 24, c'est demeurer éveillé, rester réveillé, veiller. Une des plus belles manières pour rester éveillé, c'est la prière. On a un projet extraordinaire. Je fais une petite plug pour le 24-7. Parce que c'est un projet assez extraordinaire. Le pourcentage de chrétiens au Québec est infime. On fait partie des « unreached population » pour l'Évangile. Moins de 2%. On ne peut pas dire qu'on est à une époque où on sent qu'il y a un cri du cœur de la part des Québécois pour connaître Christ. En fait, je vous donne déjà une requête de prière. Priez pour que dans nos rapports avec notre gouvernement, qui cherche vraiment à bien faire les choses, il y a aussi, on a des interlocuteurs pour les églises. Actuellement, on cherche comment dialoguer pour s'en aller vers le déconfinement. Mais ça ne fait peut-être pas partie des services essentiels, peut-être même pas des non-essentiels. Et donc, c'est vraiment un défi. Priez pour nous. Priez pour ceux qui dirigent notre association, priez pour les évangéliques. On se rassemble même avec d'autres religions juste pour pouvoir avoir des interlocuteurs. D'accord? Donc, on n'est pas dans un moment, alors que dans d'autres provinces du Canada, il y a des chrétiens qui peuvent se rassembler en groupe de 50. Ce n'est pas la réalité ici, là. On est encore loin de ça. Il semble que les Québécois ne sont pas particulièrement excités pour l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire comme Église, comme peuple de Dieu? On va commencer dans la prière. On va aller dans la prière. Comment est-ce qu'on va rester éveillé? C'est en veillant dans la prière. Et il y a un projet extraordinaire qui est né il y a 2 ans maintenant, le 24-7, avec cette vision d'un des hommes de prière les plus inspirants pour moi au Québec, Richard Roule, qui était pasteur de cette église. Et Richard a eu sur son cœur de voir des chrétiens prier 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et sa vision, c'était de voir des cohortes entières de gens qui intercèdent 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, avec un relais. On prend chacun une heure, jour, nuit, 7 jours semaine. On intercède, on a des requêtes de prière, on supplie Dieu. Viens réveiller les Québécois, viens réveiller les églises qui sont endormies. Viens réveiller nos cœurs, Seigneur. On a à cœur les Québécois. On sait que c'est toi qui vas faire la différence, Seigneur. Quel beau projet extraordinaire! Et je vous invite à vous joindre à nous. C'est la fin de semaine où on renouvelle notre engagement. Et ce soir, le pasteur Luigi va conduire un temps du 24-7 pour notre Église. Je pense même qu'on a des informations pour vous. Vous pouvez vous joindre ce soir. Hey, je fais une plug avec des annonces, avec un numéro de téléphone. Je ne fais jamais ça. Donc, vous pouvez téléphoner au 438-809-7799 ou vous joindre sur la réunion Zoom ce soir au 862-7933-2710. Juste à l'Église de l'Espoir que vous voyez faire des annonces comme ça, n'est-ce pas? Mais moi, je vous invite à vous joindre à ce temps de prière-là. Je sais que c'est un sacrifice. Hey, je vais prier à chaque semaine à la même heure. Sérieux. Sérieusement. Où s'en vont les Québécois? Où s'en va le Québec? On manque d'ouvriers au Québec. Nos églises ont besoin de se réveiller. Puis, ton association d'églises a à cœur de voir des centaines de chrétiens au Québec se relayer pour prier. Tu vas prendre une heure par semaine. Tu vas prendre une des requêtes, puis tu vas prier une minute par jour. Tu vas t'engager à venir prier 2 heures par mois avec ton Église. C'est si peu! Quelle grâce incroyable d'avoir ce projet-là! C'est une belle manière de veiller. Puis je me dis, si dans ton cœur, tu dis, « Oui, mais Yannick, c'est triste parce que toute cette pandémie-là ne m'a pas réveillé du tout. Je ne suis pas réveillé. » Viens dans la prière, Dieu va faire des choses incroyables. C'est une des caractéristiques presque constante à travers l'histoire de l'Église, quand il y a un réveil spirituel. C'est-à-dire que l'Église, dans une région donnée dans le monde, se réveille spirituellement, et puis ce réveil-là vient, puis ça atteint la population autour, il y a des conversions en masse. Presque à tout coup, à travers l'histoire de l'Église, une des constantes qu'on observe, c'est que cela a été précédé par un mouvement de prière. Donc, si à quelque part, tu dis, « Seigneur, je te prie pour que mes enfants deviennent chrétiens depuis 10 ans, depuis 15 ans. » Embarque dans ce mouvement de prière-là. C'est le minimum qu'on peut faire parce qu'on croit que c'est Dieu qui va les sauver. Et donc, je vous encourage. Lorsqu'on a débuté le mouvement ici à l'Église de l'Espoir, 40 personnes se sont engagées. 40 personnes de l'Église. Je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu. C'est toi qui sais. Moi, je vous encourage à embarquer avec nous, mais certainement veiller dans la prière. Alors, dans ce passage, il y a un déracinement qui se passe. Dans le passage, l'exhortation qui est donnée au peuple de Dieu, c'est de veiller, d'être fidèle, de veiller sur nos cœurs. Et enfin, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans le passage? C'est la mission de Dieu. Il ne suffit pas pour nous, comme chrétiens, de demeurer éveillés, de ne pas s'endormir. Le Seigneur nous déstabilise pour nous conduire dans sa mission. Un jour, très bientôt, on va être avec le Seigneur. La mission va être complétée. Ça va être terminé. On va célébrer. Il n'y aura plus d'inconfort à vivre. On va être dans la présence de Dieu. Ça va être extraordinaire. Mais jusque-là, tu ne veux pas être trop confortable. Lorsque le Seigneur te déstabilise, accueille-le avec un sourire. Veille sur ton cœur. Garde ton cœur bien éveillé. Puis enligne ton cœur sur la mission de Dieu. Parce que Dieu est en mission. Dieu est en train de sauver des âmes. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur pendant cette pandémie. Il y a quelque chose dans tout ça qui les a brassés. Ils se sont remis en question. Et vous savez quoi? Dans l'éternité, il va y avoir des gens de toutes les nations de la terre qui vont être présents. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, voici ce qu'on lit. Des gens de toutes nations, verset 9. « Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il va y avoir des gens de toutes les nations de la terre, dans toutes sortes de langues, qui vont être en train de louer Dieu, de célébrer Dieu. » C'est vraiment beau à voir. Une des choses avec la pandémie, c'est qu'on se rend compte que la mondialisation, c'est pas simple. Les gouvernements sont là, puis ils se disent, OK, il va falloir qu'on ait une certaine autonomie au niveau médical, il va falloir qu'on soit capable, parce qu'un pays a une responsabilité, hein, les gouvernements ont une responsabilité envers leurs citoyens, premièrement. Donc, s'il se passe quelque chose comme ça, je vais commencer par prendre soin de mes citoyens, puis ensuite de ça, on va essayer d'aider d'autres pays, puis on se rend compte que c'est complexe tout ça, quand il faut commencer à fermer les frontières pour protéger ta population, puis éviter qu'on circule, les choses ne circulent plus, OK, ça ne traversera plus l'océan. Donc, il va y avoir un défi, là. Vous savez quoi? La mondialisation là, va parfaitement s'accomplir dans l'éternité, avec une harmonie extraordinaire, sans tension, sans jeu politique, sans guerre, des gens de toutes les nations de la terre. C'est un des aspects qui fait que j'ai hâte qu'on se retrouve comme Église physiquement ensemble, parce qu'il y a plusieurs dizaines de nationalités qui composent cette assemblée locale-là ici, juste de revoir des gens de toutes les langues, de toutes les couleurs, de tous les accents, d'origine de plein de pays dans le monde. Alors que la COVID-19 fait qu'on se replie sur notre pays, l'Église à travers le monde nous parle qu'on est citoyens d'un autre royaume. Et pour moi, retrouver ma famille, ça va être de retrouver des gens de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les nations qui viennent ici en Église et qui forment l'Église de l'espoir. Et donc, c'est déjà un avant-goût de cette mondialisation-là qu'on va vivre dans l'éternité parfaitement en harmonie. Mais ce qu'on voit dans le passage de Matthieu 24, c'est que ça nous demande à nous d'entrer dans la mission. Alors qu'il va y avoir probablement un mouvement de repli sur soi dans nos pays pour se protéger puis se dire « ouais, c'est risqué cette affaire-là, la mondialisation », nous, on va devoir se rappeler comme chrétiens qu'on est, oui, citoyen canadien peut-être, mais avant tout, citoyen d'un autre royaume. Et on ne veut pas perdre de vue ce royaume-là et la mission dans laquelle on est appelé. C'est pour ça qu'on ne veut pas négliger nos missionnaires, c'est pour ça qu'on veut prier pour eux et peut-être partir nous autres aussi sur le champ de mission. C'est vraiment beau dans le passage, il y a une prophétie au verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc, dans Matthieu 24, c'est une prophétie. D'accord? Jésus dit « C'est ça qui va se produire. » Matthieu 28, il dit maintenant « Allez, allez, je vais accomplir cette prophétie-là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez accomplir cette prophétie-là. Je veux la faire à travers l'Église. » Donc, nous, on est appelés à être en mission. Écoutez, je vous donne une autre manière de mettre ça en application. Vous irez chercher sur Internet joshuaproject.net. Je pense que c'est seulement en anglais, mais peut-être qu'il y a une page francophone. C'est donc un organisme chrétien qui s'est appliqué à identifier partout sur la terre, non pas seulement par pays, mais par peuple, par langue, par ethnie, les peuples qui déclarent comme étant non atteints pour l'Évangile. On en a encore ici au Canada. Mettons que le Québec, c'en est un, mais on a aussi des nationalités amérindiennes qui sont ici autochtones, qu'on a encore à atteindre avec l'Évangile. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Mais on en a même au Québec ici. Mais il y en a partout sur la terre. Et donc, il y a encore plusieurs milliers de peuples qui ne sont pas atteints avec l'Évangile. Et alors qu'il va y avoir une tendance à se replier sur soi, nous, on veut se rappeler qu'on est des citoyens des cieux et qu'on est en mission. Ça peut se passer tout près de chez nous. Il y a une sœur avec qui j'ai parlé la semaine dernière, puis je n'ai pas eu l'occasion de lui demander la permission de partager son nom. Il y a une sœur de l'Église ici. Qui m'a dit, écoute, avec le COVID, tout ça, il y a des choses, Dieu me parle, puis j'ai peut-être à cœur de me joindre à l'implantation d'église à Belle-Oeil. Partir en mission, quitter le confort d'être ici pour aller dans une implantation d'église. Et donc, elle a demandé, là, les anciens sont en train de prier pour elle. On vous en reparlera. Mais on veut prier pour elle. Peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui s'en viennent bientôt aussi pour aider dans l'implantation d'église. Peut-être que Dieu vous appelle à déménager à Sorel, hein, l'église de Sorel, vous seriez d'accord? Déménager à Sorel pour aller aider la réimplantation de l'église là-bas. Peut-être que Dieu vous appelle simplement à vous préparer à annoncer l'Évangile, à contacter des amis. Écoutez, on a des voyages missionnaires court terme qu'on fait. On a dû annuler le voyage en Haïti parce qu'il y avait des troubles politiques là-bas. Et là, c'est ajouté le COVID-19. On va y retourner par la grâce de Dieu. Puis il y en aura d'autres aussi. Et peut-être que Dieu veut t'appeler. Tu es étudiant, tu es jeune, c'est le temps pour toi de voyager. Commence à faire quelques voyages missionnaires court terme. Ici au Québec, va vers les Amérindiens. Si on annonce des voyages, va faire des voyages comme ça. Simplement, les opportunités qui se présentent localement. Puis ensuite de ça, va à l'outre-mer. Quand je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, je me suis converti dans le temps des fêtes. Puis l'été qui suivait, mes parents partaient en mission à l'autre bout de la planète, à l'île de la Réunion. Vraiment, littéralement, à l'autre bout de la planète complètement. Puis là, moi, j'ai dit, OK, c'est ça des chrétiens. Les chrétiens, c'est des gens en mission qui quittent leur confort puis qui s'en vont annoncer l'Évangile jusqu'à l'autre bout de la terre. Puis pour moi, ça, ça a été le modèle du christianisme. Écoutez, les amis, Dieu nous déracine. Dieu nous déstabilise. Tes projets de vacances, tu ne sais pas où tu t'en vas. Les études, tu ne sais pas où tu t'en vas. Qu'est-ce qui va se passer demain? On attend des nouvelles. Il y a des choses extrêmement douloureuses qui viennent avec ça. Il y a des choses souffrantes qui viennent avec ça. Il y a des choses difficiles qui viennent avec ça. Mais il y a quelque chose de très sain dans ça aussi. Dieu est souverain et il nous déstabilise. Retourne pas trop vite dans ton confort. Parce qu'on est citoyen peut-être du Canada, mais on est citoyen des cieux. Et notre rôle à nous, en attendant son retour, c'est de veiller, de rester éveillé, de veiller sur nos cœurs afin de ne pas perdre notre premier amour ou afin de retrouver notre premier amour, de veiller dans la prière, de demander à Dieu de venir sauver ici, de nous envoyer où il veut. Il nous déstabilise pour nous garder en mission, pour ne pas être installé trop confortablement, puis rester en mission, rester sur le bout de notre siège, être prêt à annoncer l'Évangile, s'équiper pour annoncer l'Évangile, peut-être ici au Québec, peut-être à l'autre bout de la terre, peu importe, nous sommes en mission. Et il y a une grâce de Dieu dans ça, parce que Dieu est en mission, et notre désir à l'espoir, c'est que nos cœurs battent au même rythme que le cœur de Dieu. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu es. J'espère que Dieu t'a déraciné un peu. J'espère que tu as été brassé un peu. Je ne te souhaite pas de souffrir, mais ça prend une certaine souffrance, un certain inconfort des fois pour se réveiller. J'espère que Dieu t'a réveillé à travers cette épreuve-là planétaire. Et j'espère que tu vas veiller à ne pas te rendormir, mais que ton cœur va rester animé pour Dieu. J'espère que tu vas te mettre à genoux avec nous, que tu vas prier chaque semaine constamment pour les Québécois, pour la terre entière. J'espère que tu vas entendre l'appel de Dieu pour aller en mission. Ici, autour de toi, avec tes amis, tes collègues, dans ta famille, sur la rive sud, au Québec, jusqu'aux extrémités de la terre, pourquoi pas. Parce qu'un jour, très bientôt, Christ va revenir et des gens de toutes les nations de la terre vont célébrer sa gloire ensemble dans toutes les langues du monde. En attendant, notre travail à nous, c'est d'entrer avec lui en mission. On va prier. Seigneur Jésus, t'es bon. T'es bon, t'es souverain, tu nous aimes, puis tu nous brasses, Seigneur. Puis j'aime quand tu me brasses, Seigneur. Des fois, ça fait tellement mal. Il y a des moments dans ma vie où je savais, Seigneur, qu'une épreuve venait. Et cette épreuve-là était extraordinairement souffrante. Seigneur, tu sais à quoi je pense et tu sais combien je pleurais, je souffrais et je savais pourtant que c'était ton œuvre parce que tu voulais former Christ en moi. Tu me sortais de mon confort pour m'amener vers plus de maturité, plus d'engagement envers toi, Seigneur. Seigneur Jésus, ne permets pas que nous soyons trop confortables. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous endormions. Et si on s'est endormi, réveille-nous, Seigneur. On a une mission à accomplir, celle de faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ. On doit veiller sur nos cœurs, rester réveillés. On ne doit pas se replier sur notre nation ici, mais au contraire, envoyer des missionnaires partout au Québec, partout au Canada, partout sur la terre. Donne-nous ces cœurs de missionnaires, Seigneur. Seigneur Jésus, reviens bientôt. Reviens bientôt, Seigneur. Et garde-nous éveillés jusqu'à ton retour. C'est dans le précieux, le puissant, le glorieux nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen.